Alors, une fois qu'on a les documents, comment est-ce qu'on fait justement pour les numériser et les conserver?
Pour les numériser, les archives départementales sont dotées d'un atelier de numérisation en interne, avec plusieurs machines, des différents scanners qui vont permettre de numériser différents formats. On est notamment doté d'un scanner A1 par balayage qui va nous permettre de scanner en haute définition les documents et donner une meilleure représentativité.
Jean-Bernard Monnet, le directeur des archives départementales des Hautes-Alpes.
La numérisation, avant tout, est un acte de conservation. Ça va permettre de créer un outil numérique qui va être diffusé et qui va protéger l'original, qui ne sera plus manipulé. Aujourd'hui, les choix de numérisation sont très différents. Soit ce sont des documents très abîmés et qu'on ne veut plus voir manipulés, comme par exemple l'état civil ou les registres paroissiaux qui sont beaucoup utilisés par les généalogistes, ou les documents qui ont un besoin d'être consultés à distance. Et c'est notamment tout le travail de la numérisation à la demande menée par les archives départementales des Hautes-Alpes, à la demande des usagers qui puissent habiter à Lille, à Rouen ou à Marseille, à l'étranger. Ils peuvent commander une numérisation d'un document conservé aux archives départementales, si et seulement si l'état de conservation du document le permet et qu'il s'agit d'un document librement communicable.
Et donc après, une fois qu'il est numérisé, donc il va dans un fonds particulier.
Alors, une fois qu'il est numérisé, ce qu'il est important de rappeler, c'est que l'original est toujours conservé. Les copies numériques sont mises sur des serveurs traités par deux opérateurs des archives départementales. Et ensuite, c'est notre collègue Edwige Fèvre qui va s'occuper de toute la partie de mise en ligne sur le site internet des archives départementales, qui est une véritable salle de lecture virtuelle pour le grand public.
On a remis à jour notre site internet en 2014 où on a voulu véritablement faire une salle de lecture virtuelle où en fait les internautes peuvent donc à distance, sans venir dans notre salle de lecture à nos heures d'ouverture, accéder aux documents sur notre site internet et aussi en fait ils ont la possibilité donc d'interroger nos moteurs de recherche et de nous demander les numérisations qu'ils souhaitent, c'est-à-dire s'il y a un document qui les intéresse en ligne, qui n'est pas encore numérisé, ils peuvent faire la démarche de demander la numérisation pour pouvoir y accéder à distance. La numérisation, donc de 1 à 4 vues, ça coûte 1 euro et après on en rajoute 25 centimes par vue supplémentaire. Donc du coup, c'est quand même très attractif et l'objectif, ce n'est pas de rentabiliser le service, mais c'est bien de permettre l'accès aux archives, c'est ça.
Et là, il y a combien de documents du coup numérisés qui sont accessibles à tout le monde?
Il y a plus de 2 millions d'images. Alors, on ne raisonne pas en termes de documents. Enfin, on pourrait raisonner, je n'ai pas les chiffres sous la main, mais en tout cas, les images qu'on a publiées, on en a plus de 2 millions qui sont sur notre site internet.
Et concernant la Première Guerre mondiale, il y a un fonds particulier qui est accessible en ligne. Là, il y a combien du coup d'images?
Alors, je ne saurais pas vous dire exactement combien il y a d'images. Effectivement, on a créé un accès spécifique sur la Première Guerre mondiale, où en fait, on a concentré les fonds les plus emblématiques, finalement, pour pouvoir rechercher sur cette période, et notamment sur les soldats qui ont participé à la Première Guerre mondiale, avec notamment les matricules des poilus, qui permettent de faire un état de service de la personne, du combattant, et puis les cartes d'anciens combattants, qui permettent notamment d'avoir une photographie du combattant, ce qui est assez rare dans les documents d'archives.
Ces documents-là sont plutôt consultés par qui? Des historiens, mais aussi ça s'adresse là pour peut-être les familles, les descendants.
Exactement, oui. Le public, la majorité de notre public, en fait, ce sont les généalogistes, des gens qui viennent faire effectivement leur généalogie, donc étudier un peu leurs ancêtres. Et donc, c'est vraiment le plus gros, finalement, de notre public. Mais ensuite, on a aussi des historiens qui font l'histoire locale du département, etc. Et puis, on a aussi une partie de recherche administrative où des gens viennent faire des recherches pour prouver des droits de propriété, etc. Bien sûr, il y a aussi les étudiants qui font des études en sociologie, en histoire, enfin, toutes les sciences humaines qu'on peut avoir et du coup, qui peuvent venir étudier les documents conservés ici.
Juste pour faire un petit point sur le site internet, l'idée c'est qu'il soit vraiment accessible à tout le monde, donc qu'il soit plutôt facile d'utilisation. Là, on le voit, si vous pouvez un petit peu présenter aux auditeurs peut-être comment ça se compose.
Effectivement, on a essayé d'avoir une ergonomie la plus simple possible, en fait, pour que les internautes puissent facilement rentrer des mots-clés pour voir un petit peu ce qu'on peut conserver comme document. On a un moteur de recherche général qui interroge tous nos instruments de recherche. On a une présentation ensuite des résultats à plat. En fait, il n'y a pas du tout. On a essayé d'enlever un maximum le jargon d'archiviste, le jargon administratif, etc., pour que ça soit le plus simple possible d'accès. Et quand ça reste un peu difficile, parce que c'est vrai que les archives sont façonnées par rapport à l'administration, donc du coup, ça peut être compliqué de rechercher à l'intérieur, eh bien, on a aussi mis en place des services pour aider les internautes à distance. On a des tutoriels, on a la possibilité d'avoir des visio-rendez-vous avec les internautes, et on a aussi la possibilité de contacter un archiviste à distance. Alors, c'est pas immédiat parce qu'il n'y a pas un archiviste qui est là 24 heures sur 24 derrière l'ordinateur, mais en tous les cas, on peut aiguiller à distance l'internaute de manière à ce qu'il ait le même service finalement que l'usager qui viendrait dans notre salle de lecture ici.
Et du coup, le site, c'est quoi ?
archive.haute-alpes.fr.